morning is your wake-up call. Have a good day.
Bom dia, é hora de acordar.
Ohayou gozaimasu. Te kudasai.
Ciao. E il momento di svegliarsi.
Hello.
Buongiorno.
Scent of watching.
Guten Tag.
Buenos dias. È ora di despertare.
Bonjour. C'est le service de réveil. Il est l'heure de se lever. Bonne journée.
Buongiorno.
Il est l'heure de se lever.
Allez, debout là-dedans. Eh oui, bonjour. Allez, debout, tout le monde là-dedans. Je suis de nouveau avec vous ici à Canal B 94 MHz pour une nouvelle wake-up call. Et ce matin, au sommaire de Wake Up Call, il n'y a pas de sommaire, hein, parce que quand on invite Guillaume Cosmiki, il n'y a pas moyen d'avoir un sommaire, parce qu'il n'y a pas de reportage, on va faire beaucoup de blabla. D'ailleurs, je vais dire tout de suite bonjour à mon invité.
Bonjour.
Ça va, Guillaume ?
Ça va très bien.
Eh bien, je vais quand même donner quelques infos, et puis à la fin de l'émission, bien sûr, l'agenda. La permanence de WikiHen, c'est aujourd'hui avec mon invité d'hier, Régis Châtelier de l'asso Bug, qui gère donc, c'est l'asso qui gère le site hein, WikiHen, qui est l'encyclopédie numérique qui demande à être enrichie par les habitants de Rennes. Il propose la mise en ligne des articles, photos, pour raconter l'histoire de la ville, ses quartiers, son patrimoine. Devenez-vous aussi un membre de l'équipe de rédaction de WikiHen, même si la rédaction n'est pas votre tasse de thé, puisque le travail se construit de manière communautaire, participative. Vous apporterez donc votre pierre pour bâtir le chantier rennais sur la toile. Rendez-vous à la cantine numérique désormais chaque mercredi à partir de 12h30 pour des conseils techniques pratiques selon vos envies, selon vos possibilités. Je vais d'ailleurs profiter pour annoncer également l'apérouche de demain, toujours à la cantine numérique, qui propose une rencontre autour de l'évolution de l'hyperconsommation vers la consommation collective. Il s'agit des sites web qui proposent des services entre particuliers comme le Bon Coin, covoiturage.fr ou le Couchsurfing. Est-ce que l'ère de l'hyperconsommation fera place à une évolution croissante de l'ère de la consommation collective? En tout cas, cette rencontre va peut-être favoriser, voire fixer le point de départ pour certains. Donc rendez-vous à ne pas manquer. Et puis, l'État vient d'annoncer de donner le feu vert au groupe Vinci pour l'exploitation de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique et aussi du futur Notre-Dame de Landes. C'est le nouveau aéroport qui doit être donc inauguré en 2017. Situé à 30 km au nord de Nantes, le futur aéroport sera construit à partir de la mi-2014. En attendant, le groupe Vinci doit mettre en œuvre des procédures obligatoires de protection d'environnement, foncière, archéologique. L'entreprise estime qu'il n'y a plus rien à débattre sur la réalisation de l'aéroport en lui-même, dont l'acceptation du projet, mais la porte reste ouverte pour des éventuelles discussions de la mise en œuvre. L'opposition forte d'agriculteurs locaux demeure des militants écologistes ou anarchistes ne partagent pas le désir de voir se dresser un aéroport sur ce site non plus. L'aéroport sera construit pour accueillir dès le démarrage un flux de 4 millions de passagers pour évoluer vers 9 millions dans les 55 ans à venir. Eh bien, bon voyage. Je veux parler avec mon invité, Guillaume Kosmicki. Eh bien, il est déjà venu ici. Hein.
Oui, c'est vrai. C'était à fin de l'année dernière.
Ouais.
On avait parlé de Free Party.
Exactement.
C'était assez amusant de parler de Free Party, de mettre des musiques un peu enlevées avec ces tempos-là de bon matin, je m'en souviens.
C'est vrai, c'est vrai. Guillaume, d'abord, je voulais te poser une question. Toi qui bouges beaucoup à droite et à gauche, un aéroport à Nantes, est-ce que ça va plutôt t'arranger ou quoi? Un grand, je veux
Moi,
dire.
Moi, je suis plutôt pour prendre le train quand je bouge en France. Je prends jamais l'avion, en tout cas sur le territoire national. M'y tiens. Je suis plutôt écolo de ce point de vue-là, on va dire. Sur d'autres points de vue aussi, mais de ce point de vue-là, je m'y tiens.
Bon, ça y est, on a compris de quel bord il est. Eh bien, Guillaume, donc tu es venu pour la première fois pour la Free Party. C'était génial. On a fait une table ronde, c'était la sortie du livre. Et puis, craquage, j'ai vu que tu avais écrit, enfin, tu m'as raconté le premier livre qui est sur les musiques électroniques des avant-gardes au dance floor. Ça, c'est le titre. Et c'est Le Mot et le Reste, l'éditeur.
C'est le même éditeur.
Éditeur, donc fidèle. Je pense que ce livre, j'ai vu l'autre jour chez mon libraire préféré, c'est Le Chercheur d'Heure.
Oui.
On peut l'acheter là-bas.
Oui, je pense qu'il doit y être.
Entre autres, hein, certainement, ça doit se vendre un peu partout. C'est un livre qui a été écrit exactement à quel moment?
Alors, je l'ai terminé, il est sorti en mai 2009, donc ça fait pas si longtemps que ça.
Ouais.
Il est sorti juste un an et demi avant le livre sur les free parties. Et il est ressorti parce qu'en fait, il a eu un certain succès, on va dire, c'est tant mieux, hein. Ça a plu. Et donc, il est ressorti aussi en même temps, il a été réédité en même temps que le livre sur les free parties. Donc, du coup, il se trouve partout, là.
D'accord. Ouais. Je vais te demander un truc pour le souci des auditeurs. Est-ce que tu peux juste monter un tout petit peu ton micro vers toi?
Absolument.
Ouais, parce que j'ai l'impression
c'est
qu'on
fait.
T'entend. Voilà, on
est-ce
va t'entendre
mieux.
Mieux. Ouais, je pense, ouais, ça va être mieux. Eh bien, voilà. Donc, ce livre. Alors, il précède celui sur la Free Party, il est très complet. En fait, moi, j'ai lu d'abord celui de la Free Party parce que j'étais reçue. Et en lisant celui-ci, je me suis dit, ouais, je comprends pourquoi il a fait un livre sur la Free Party ensuite, mais il fallait quand même connaître celui-ci d'abord.
Eh ben, alors, effectivement, alors celui-là, il a l'air plus petit en volume que le livre sur la Free Party, mais je pense qu'il se lit beaucoup plus lentement et posément parce que c'est un livre qui ne repose pas sur des témoignages comme l'autre, hein, qui raconte pas des histoires, des vies, des parcours comme ça, mais qui va en fait raconter l'histoire de plus d'un siècle d'histoire de la musique. Symboliquement, donc les musiques électroniques, on va peut-être parler un petit peu de la définition de ce que c'est, parce que c'est pas facile de le dire.
Ah, je te laisse faire.
Je vais en dire un mot dans un petit instant.
Ah,
mais on va dire que symboliquement, moi je fais partir le début de ces musiques dont je parle. À la fin du 19e siècle, en 1877. Pourquoi 1877? Parce que c'est le moment où Edison invente son phonographe et c'est la première machine qui est capable de fixer du son, donc d'enregistrer du son, mais aussi de le reproduire. Et pour moi, c'est le début symbolique, c'est vrai, mais c'est le début de tout un tas de processus qui vont donner naissance aux musiques électroniques. Maintenant, s'il faut que je te définisse la chose, donc c'est le livre, il va parler d'un siècle de musique, hein, plus d'un siècle de musique qui va jusqu'à nos jours, jusqu'à quasiment 2010. C'est pas un genre, c'est pas quelque chose qui est facile à définir parce qu'en fait c'est une famille qui est très 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 diversifiée. Et le terme de musiques électroniques, parce que c'est un terme qui est au pluriel, il a été utilisé pour la première fois, inventé pour la première fois avec ce S, hein, je veux dire, dans les années 90. Et on parlait au début, pour ces musiques-là, on parlait d'une famille de musique, on disait la techno, tout simplement, la musique techno, c'était une musique de danse, c'était une musique qui allait avec les raves, qui allait avec un type de fête un peu particulier, qui allait avec les free parties, justement.
C'est l'appellation d'ailleurs européenne, un peu.
Absolument,
voilà,
ouais, on parlait des musiques techno. En Allemagne, on parle d'ailleurs toujours des musiques techno pour ces musiques-là. On parlait de la House Nation aussi, en fait, c'était un moment d'utopie, c'est un moment aussi où tout le monde croyait que ça allait changer les choses, que ça allait changer le monde, etc. Et le truc, c'est que en France, à un moment, ces musiques-là, elles ont eu très très mauvaise presse parce que il y avait les raves, donc qui étaient souvent clandestines, illégales. Il y avait les histoires de drogue, il y avait toutes ces craintes des autorités par rapport à donc une jeunesse qui s'engouffrait là-dedans, etc., etc. Comme il y a toujours eu des craintes des autorités pour toutes les musiques entre parenthèses. Et à ce moment-là, on va dire que les journalistes qui étaient passionnés par ces musiques, il y en avait quelques-uns quand même en France, les musiciens eux-mêmes, finalement, ont changé le terme, ont changé l'appellation, et ils ont dit, bah nous, on fait pas de la techno. Ils ont un petit peu artificiellement dit, on fait partie d'une famille qui appartient aux musiques électroniques. Et en disant ça, ils ont un peu effacé le mot rave, effacé le mot techno. Ça s'est passé autour de 95-96, au moment où il y a eu un pic de répression. Et ils ont dit, on appartient aux musiques électroniques. Donc ça noyait un peu le poisson dans une famille beaucoup plus large, et surtout ça rattachait cette famille-là à des musiques qui avaient précédé, mais de très très loin, donc la musique techno qui apparaît au milieu des années 80, ces musiques qui sont apparues, elles, dans les années 50, et qui ont été beaucoup plus le fait de laboratoires beaucoup plus confinés, de scientifiques, de musiciens, on va dire savants, puisqu'on parle de musique savante dans ce cadre-là. Donc c'était notamment le GRM, le groupe de recherche musicale, c'était le laboratoire de musique électronique à Cologne, c'était donc des universitaires, des compositeurs comme Karlheinz Stockhausen, donc un compositeur très savant, des gens comme Boulez, des gens comme Pierre-Henri, Pierre Schaeffer en France, enfin tout un ensemble de courants comme ça, mais très anciens, beaucoup plus anciens, donc de 30 ans antérieurs, et qui avaient effectivement, dans les années 50, c'était aussi intéressé aux technologies électroniques. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'on avait utilisé le terme de musique électronique en Allemagne, on disait la musique électronique. Mais ce sont des musiques qui sont très 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 différentes de la techno et de tout cela. Effectivement, il y a un lien, c'est le lien de la technologie, mais à côté de ça, ça s'exprime dans des milieux qui sont des milieux sociaux qui sont pas les mêmes. Ça s'exprime aussi pas du tout pour les mêmes buts. La techno, c'est une musique de fête, une musique de danse, une musique vraiment qui se base sur des structures répétitives pour danser, pour faire la fête, pour décharger de l'énergie, on va dire. Alors que ces musiques auxquels on se rattachait, on va dire un peu artificiellement par le terme de musique électronique, ce sont des musiques beaucoup plus de l'écoute
conceptuelle.
Voilà, c'est ça, beaucoup plus, qui sont très importantes aussi dans le bagage des musiques qu'on a dans le monde. Moi, je pourrais pas m'en passer. Moi, qui suis fan de techno, je pourrais pas me passer des musiques, on va dire savantes. Mais ce sont des musiques qui s'adressent beaucoup plus, voilà, une réflexion, à un laisser aller aussi de l'esprit qui est un peu différent, à une écoute plus concentrée. Enfin voilà, d'autres aspects. Et donc, on a regroupé cette famille immense des musiques électroniques, on va dire, avec tout ce qui s'est passé depuis les années 50. Donc, ça en fait un ensemble extrêmement hétéroclite, puisque dans les années 60-70, le jazz aussi s'est intéressé aux synthétiseurs, puisque la disco, qui précède la techno, aussi a utilisé des synthétiseurs, des technologies modernes, etc. Puisque le funk l'a fait, puisque le rock, on appelle la synth-pop en Angleterre au début des années 80, ou l'électropop, comme on dit en France, aussi s'est intéressé à l'électronique. Alors, du coup, ça fait une ramification gigantesque, plein de musiques très très différentes. Le hip-hop aussi, bien sûr, puisqu'il y a la platine, il y a plein de technologies, les boîtes à rythme, etc. Et donc ça fait un livre et une tâche assez dense, voilà, c'est ça, qu'on n'est pas obligé de lire d'un bout à l'autre. Moi, je sais que tu l'as lu d'un bout à l'autre, chapeau, bravo. Mais effectivement, ça fait quelque chose de très dense. Et je pense que il y a deux liens dans toute cette famille. Le lien le plus fort, le plus évident, je l'ai dit, c'est la technologie. C'est pour ça que j'ai fait un premier chapitre sur la technologie, donc c'est vrai, un petit peu peut-être un petit peu froid pour commencer, mais ça, c'est comme ça. Commence, puisqu'on parle de musiques électroniques, c'est difficile de pas parler d'électronique dès le début, de technologie et de toutes ces choses là et le deuxième lien, et là je pense que c'est un lien qui est aussi très important et qui se retrouve aussi beaucoup dans toutes ces familles, c'est le lien en fait de la matière sonore différente, la vision différente qu'on a de la musique à partir du début du XXe siècle, qui est une musique qu'on tourne vers le timbre, c'est-à-dire la matière sonore, et on abandonne finalement une manière qu'on avait d'écrire la musique, on abandonne ou on laisse un peu de côté depuis des siècles, qui est une musique basée sur la hauteur. Ça ne veut pas dire qu'on l'a oublié, on a toujours des tas de mélodies, on a toujours des chanteurs, des chanteuses, on a toujours des instruments mélodiques, il y a toujours ça, mais à côté de ça, il y a une très grande partie de la production qui va se diriger vers la matière sonore, vers le timbre. Et ça, c'est un phénomène qui s'est amorcé depuis déjà le début du 19e siècle, par exemple, avec Beethoven, avec Berlioz, avec des compositeurs comme ça, que je cite aussi hein, dans le livre.
Tout à fait, ouais.
Et c'est cette orientation, en fait, je pense qu'elle explose au 20e siècle, de par cet avènement de l'électronique, parce que les nouvelles technologies vont permettre d'explorer plus encore et toujours de nouveaux timbres et de voir plus avant là-dedans. Et puis aussi de par notre univers sonore. Et notre univers sonore, au XXe siècle, il est, depuis le XIXe d'ailleurs, profondément marqué par l'urbanité et profondément marqué par des choses qui nous entourent et qui, d'un bout à l'autre de notre journée, nous envahissent, on va dire, le champ musical, le champ sonore et l'esprit. Ce sont des boucles, des boucles mécaniques, des machines. On est entouré de machines, on a des moteurs à explosion dans toutes les voitures qui nous entourent, qu'on conduit ou autre. On a des rames de métro, on a des aéroports avec des avions, on a des cafetières qui tournent aussi, ouais, en boucle. On a des tas de choses comme ça. Et je pense que c'est pas du tout un hasard si, dès le début du XXe siècle, chez des tas de compositeurs, on commence à voir apparaître des boucles et des superpositions de boucles et des évocations comme ça de la ville, de la machine, de l'usine.
Et des bruitages, ouais.
Et des bruitages. Et tout ça va se retrouver aussi comme une sorte de lien commun, éventuellement dans pas mal, pas toutes, mais pas mal des musiques électroniques dont je parle dans le livre. Peut-être que c'est le moment d'écouter, parce que j'ai choisi un premier exemple.
Ça va être Alexandre.
Tu m'as demandé, voilà.
Alexander
Mosolov, c'est ça. Ouais, Mosolov, c'est un compositeur russe qui a composé ça donc au début des années 20. Alors l'année exacte, je crois que c'est 1923. À vérifier, je regarderai, je te dirai. Mais voilà, j'ai choisi un exemple. Tu m'as demandé de prendre plusieurs exemples pour illustrer la matinée, mais un exemple qui n'est pas un exemple du tout électronique, mais qui à mon avis me semble assez pertinent à passer parce que
pour comprendre le passage, le pont,
c'est un orchestre,
les évidences, ouais.
C'est un orchestre symphonique, mais qui va utiliser des choses extrêmement bruitistes, parce que il y a de la dissonance, il y a aucun son qui véritablement dans les règles du 19e siècle ou du 18e siècle ne fonctionne avec un autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des accords, il n'y a pas des mélodies qui s'accordent entre elles, etc. C'est uniquement des boucles. Des boucles parfois même très dissonantes, avec des sons assez stridents, etc., mais qui évoquent en fait une fonderie d'acier, c'est-à-dire une usine dans l'univers soviétique. Et c'était très important pour ce compositeur de faire ça, parce que c'est Lénine, etc., qui demandait de montrer la toute-puissance soviétique, les usines, l'industrie, etc. Alors là, c'est dans un régime particulier, mais ça s'est fait partout dans le monde à ce moment-là, puisque je disais, l'industrie, le modèle urbain, le modèle industriel a marqué tous les compositeur. Donc ça, c'est un compositeur de musique savante, bon, qui a eu un grand succès comme ça en Union soviétique, mais c'est fait avec un orchestre, et c'est pas électronique. Et je pense que les auditeurs, ils retrouveront là-dedans quelque chose qui leur parlera beaucoup, qui rappelle énormément ce qu'a fait la techno presque un siècle après.
Bon, déjà, je pose un peu les choses dans le sens où je ne suis pas censée, dans l'émission Wake Up Call, vraiment traiter de la musique. Alors, je vais planter le décor, les auditeurs. Je suis tombée un peu amoureuse de la façon comment Guillaume s'exprime et puis aussi de la façon comment il écrit et comment il explique les choses. Je pense qu'il y a véritablement un pont entre les mouvements musicaux, la sociologie, etc. Et puis tout ce qu'on va entendre en technicité, qui fait vraiment, comment dirais-je, qui donne vraiment une coloration différente, et on ne va pas rester forcément dans le registre de la musique, mais là, c'est vrai que le danger, il est quand même que le livre parle de musique, donc c'est très exceptionnel, hein, c'est une émission assez exceptionnelle. On va écouter ce morceau et puis on reviendra. Je vais essayer de maîtriser mon invité, c'est pas facile, hein. On va passer pour les parties qui nous avons convenues dans le début du livre. We'll be right back. Waouh, c'est très très beau. Je trouve ça super. Comment on fait pour découvrir ça lorsqu'on n'est pas initié dans ce genre de musique, Guillaume?
C'est-à-dire découvrir, trouver les musiques ou
Trouver les musiques, mais aussi comment le commun des mortels peut véritablement tomber sur ce genre de musique, puisque bon, après évidemment, on peut aller dans des rayons spécifiques dans les magasins, mais est-ce que par ailleurs, déjà chez les gens comme ça, il y a des prédispositions ou autres pour aller vers ce genre de musique qui est devenu d'ailleurs, oui, parce que de toute façon, les gens ils sont devenus d'ailleurs accros à la boucle, à la techno, etc.
Alors, là, c'est assez large comme question, mais en fait, ça rejoint un peu la conclusion de mon livre.
Oui.
Moi, je trouve qu'on, du point de vue de l'ouverture musicale, sur d'autres points de vue, c'est pas vraiment le cas, mais du point de vue de l'ouverture musicale, on vit une époque formidable. Ce qui fait qu'on n'a jamais pu entendre autant de musique qu'aujourd'hui. Ça, c'est depuis l'enregistrement, mais depuis tout ce qui a suivi l'enregistrement, c'est-à-dire la radio, c'est-à-dire tous les médias, c'est-à-dire et puis Internet aujourd'hui qui est un outil formidable. Donc il suffit d'être un petit peu curieux, il suffit de se renseigner à droite et à gauche sur différentes tendances, différents courants. Et il y a de plus en plus de choses qui aujourd'hui qui permettent de le faire. Des livres, c'est vrai, mais aussi des sites internet et plein de choses autour de ça pour prouver très très facilement toutes ces musiques-là. Moi, j'ai jamais pu depuis les 10 dernières années, j'ai jamais pu trouver aussi facilement des choses que je cherchais, dont j'entendais parler à droite et à gauche. Donc, je pense que l'époque est formidable pour ça. Donc, il y a pas de souci pour retrouver toutes ces choses-là. Sur internet, trouver du Mosolov ou même si c'est très 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 rare, eh bien on peut le faire, on peut le trouver, et je crois que ça va tout à fait avec la profusion gigantesque de musique et de styles musicaux qui est caractéristique du XXe siècle et dont il est question dans le livre.
Eh bien, je te demande ça aussi parce qu'il y a eu un moment phare où les choses elles sont devenues plus accessibles aux gens, puisque il y a fut une époque vraiment, comme tu racontes dans le livre, il y avait deux écoles quoi.
Absolument.
Il y avait des gens qui retenaient la musique parce que c'était hyper élitiste, et puis c'est un peu comme ça d'ailleurs, je suppose, aujourd'hui,
c'est
pour certains gens.
C'est beaucoup moins comme ça.
Mais c'est beaucoup moins, oui,
c'est
voilà.
C'est beaucoup
ouais.
moins comme ça. Ça c'est,
est-ce
ça,
qu'il y a l'événement
ça marquant. Fait partie aussi de cet aspect formidable dont je parle, c'est que le moment où les musiques électroniques étaient confinées, élitistes, dans des laboratoires, c'est les années 50, et ce moment-là, c'est un moment où la technologie n'était absolument pas accessible à monsieur tout le monde. Il a fallu, en général, entre la découverte et l'utilisation par des milieux forcément élitistes, ça se passait par exemple à la radio télévision française, il n'y en avait qu'une en France, hein, donc de toute façon ça pouvait pas se passer que là, à Paris, ou le moment où ça se passait à la radio à Cologne, en Allemagne, etc. Il a fallu à peu près une trentaine d'années avant que ces technologies passent dans le domaine du grand public. Qu'on commence à assister à des synthétiseurs qui se vendent dans les années 60, 70 par monsieur Moog ou par tout un ensemble de vendeurs de synthétiseurs. Il fallait une trentaine d'années. Aujourd'hui, quand les laboratoires ou des informaticiens dans ces laboratoires trouvent quelque chose, il suffit de quelques jours, quelques semaines au maximum avant que ça passe dans le domaine du grand public. Donc finalement, le temps d'accès et l'écart entre des milieux de recherche nécessaires et des milieux, on va dire, plus populaires, plus faciles, eh bien, il s'est réduit énormément. Et il y a quelque chose dans ce rapprochement qui est encore plus fabuleux, c'est que tous ces compositeurs savants, les Pierre Henry, les Parmigiani, les Stockhausen, etc., tous ces gens-là, aujourd'hui, sont parfois même adulés par des jeunes qui ne sont absolument pas dans ces milieux-là, qui n'ont pas suivi des études au conservatoire ou dans des laboratoires, etc., et qui découvrent ces musiques-là du fait d'Internet, du fait des livres, du fait des médias qui ont énormément parlé de ces genres-là. Donc finalement, la frontière s'est largement, très très largement affaissée au cours des années 2000 notamment.
Oui, et aussi parce que, comme tu expliques dans le livre, la parution de la démocratisation de tout ce matériel, et c'est ça que je voulais dire, c'est que d'entrée de jeu, ton livre quand tu m'as dit « Ouh là là, ça va te faire un peu peur, c'est très technique ». Parce que justement, parlons-en de ce premier chapitre où tu poses un certain nombre déjà de données technologiques qui vont évoluer et ça n'arrête pas. Tout le livre, en fait, tu reviens sur ces registres technologiques et tu dis à telle période, à telle époque, il y a eu... telle chose qui a commencé à être, enfin, tu vois, un sampler, etc. Donc, ça a changé la vie des gens, sociologiquement parlant. C'est toute une révolution, quand même.
Absolument. Alors, en fait, la première révolution, c'est quand même l'enregistrement. Ça, c'est une révolution dans la musique sans précédent. Parce que l'enregistrement, il a permis donc d'entendre des musiques comme jamais on en avait entendu, une quantité gigantesque du matin au soir. Donc, c'est pour ça que je pars de là. Mais, donc, c'est ce qui a marqué profondément le XXe siècle. Mais de l'enregistrement, du fait d'entendre ces musiques-là, on en est arrivé même à fabriquer des musiques avec l'enregistrement. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très nouveau. Comme à un moment, on a fait de la musique par transmission orale, à un moment, on a fait de la musique par l'écrit, etc. Là, on a fabriqué de la musique et on en fabrique toujours via l'enregistrement. Même cette émission de radio que tu prépares et qu'on est en train de réaliser, bah, elle fonctionne sur l'enregistrement. On passe des enregistrements en même temps, on découpe et puis pourquoi pas si un jour on rediffuse des extraits, on peut redécouper dedans, remettre des extraits et pourquoi pas je peux prendre ta voix et faire un morceau avec. En fait, on peut faire énormément de choses aujourd'hui avec l'enregistrement jusqu'à fabriquer de la musique. Donc ça, c'est une révolution gigantesque et ça a profondément changé effectivement les données. Et j'ai fait un premier chapitre, effectivement, sur les technologies. Pourquoi un premier chapitre sur les technologies qui peut paraître un peu froid? C'est parce que toutes les musiques qui apparaissent et dont je parle, même si différentes soient-elles, elles vont toujours faire référence à une technologie qui est arrivée à un moment ou à un autre. Donc l'enregistrement, et puis c'est vrai, les nouvelles lutheries, les nouveaux synthétiseurs et toutes ces inventions hein, qui ont marqué profondément le XXe siècle. Et qui fait que quand on se souviendra, même dans un siècle ou deux de la musique de notre époque, eh ben on dira c'est le siècle de l'électronique, c'est le siècle où on a eu ça. Il y a un autre truc hein, à notre siècle, c'est aussi le siècle où l'Occident a découvert le monde. Mmh. Enfin, grâce à l'enregistrement. C'est-à-dire que pour la première fois, on a parlé de musiques africaines, on a écouté du jazz, on a écouté plein de choses comme ça, qui ont été des carrefours de mélange, d'influences différentes. Mais c'est encore l'enregistrement qui a permis et favorisé tout ça. Donc, voilà, on parlera du XXe siècle comme ça. L'électronique et l'ouverture à l'autre. L'ouverture à l'Orient, l'Afrique, etc. Ça,
c'est... Et puis le voyage, parce que dans le livre, donc, tu expliques bien aussi qu'il y a des gens qui ont fréquenté des milieux, notamment aux États-Unis, qui ont découvert des choses et qui ont ramené en France, qui ont leur impact. Je parle par exemple de Laurent Garnier ou d'autres personnes comme ça. Mais il y a aussi toutes ces personnes qui ont commencé à fabriquer de la musique. Alors, c'est marrant parce qu'il y a vraiment un pont entre l'Europe et les États-Unis. À la fois, les Américains qui découvrent des choses parce qu'il y avait la musique savante, il y avait en boucle, il y avait tout ça, et qui créent quelque chose chez eux. Et qu'une fois qu'ils arrivent, eux, à leur tour en Europe, ils deviennent de semi-dieux, quoi. Parce qu'ils ont créé quelque chose et transformé quelque chose qui, en Europe, ils n'avaient pas vu ça comme ça non plus.
Alors, là, tu parles peut-être des artistes de la techno ou de,
oui,
artistes...
je suis déjà dans les artistes de
parce
la techno.
Que, ouais, sur la musique savante, c'est un petit peu différent. Il y a eu, il y a eu des laboratoires savants aux États-Unis, c'était pas de tout pareil qu'en Europe, etc. Mais pour la techno, ça, c'est vrai, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. C'était pas des compositeurs savants, hein, c'était des compositeurs, alors surtout des noirs qui appartenaient à des villes, à des quartiers, même pour certains, des quartiers très pauvres, des ghettos de Chicago, des quartiers vraiment très, très, très défavorisés, et qui ont créé un petit peu en confiné pour leur milieu, pour leur club, pour leur boîte. Là, on parle vraiment de la naissance de la house, par exemple, ou de la techno à Détroit, et qui ont créé un genre qui leur parlait, qui était joué dans des clubs, alors beaucoup dans des milieux homosexuels, donc vraiment des choses de la marge, la suite de la musique disco, la suite de ce qui s'était passé, mais avant que le disco n'explose et ne devienne extrêmement commercial. Et c'est vrai que ces gens-là, ces créateurs, n'avaient jamais pensé que leur musique serait diffusée au-delà de leur ghetto, de leur quartier. Parce que même, ils composaient ça dans le sud de Chicago, et dans le centre de la ville, les quartiers plus riches ne savaient pas ce qui se passait dans cette ville-là. Et même 10 ans après, ils n'ont pas su que la house venait de chez eux, quoi. Ça, c'est quand même assez exceptionnel.
Et effectivement, même chose sur Détroit, d'ailleurs, parce que tu expliques aussi bien qu'à Détroit, l'immersion de la musique était vraiment dans le centre de la ville.
Qui est totalement abandonné, totalement pauvre et totalement délaissé par toutes les classes les plus aisées qui sont allées dans la périphérie de la ville parce que les entreprises de voitures sont parties de la ville. C'est vraiment une friche industrielle, c'est vraiment un quartier laissé à l'abandon et ça s'est créé là.
Et pourquoi ça
sachent.
Parce que quand on est pauvre, on est plus rêveur.
Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent la naissance de ces musiques électroniques là, particulières, hein, qui sont les musiques house et techno. Mais il y en a un. Il y a un des créateurs qui en parle très bien, c'est Derrick May. C'est un des premiers à avoir créé de la techno. Derrick May, il dit que finalement, dans cette musique-là de boucle, de mécanique, hein, industrielle, ils ont cherché à, peut-être inconsciemment, à reproduire le temps où leurs parents avaient du travail. Le temps où leurs parents étaient dans un âge d'or, dans des usines, dans un moment heureux où il y avait d'ailleurs un label très connu de musique afro-américaine, c'est la Motown qui était à Détroit, du temps où voilà c'était très assez vivant, assez riche, assez agité comme société. Et eux vivent dans cet univers complètement délaissé et finalement ils réinscrivent, ils retrouvent dans cette création la musique qu'entendaient hein, en travaillant peut-être leurs parents. Je trouve que c'est très poétique comme image, mais en même temps c'est très 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 vrai. C'est très en fait ils vont danser sur des bruits de machines, des bruits normalement qui aliènent, hein, qui enferment l'homme dans le travail, mais eux ils en sortent et ils en font une musique de fête. Alors je trouve ça très très beau d'ailleurs de faire une musique de fête sur une musique sur une machine aliénante, quoi. C'est quand même pas mal.
Est-ce qu'il y a d'ailleurs un courant très fort notamment en Allemagne avec des groupes comme Kraftwerk et autres qui sont d'ailleurs issus, bon, tu expliques bien que dans cette partie d'Europe, il y a les musiques OMB.
Ouais, EBM. Alors ça, EBM, ça arrive après Kraftwerk, hein, c'est l'Electro Body Music.
Ouais.
Électronique.
Mais, voilà, il y a ça qui, voilà, c'est devenu donc un courant fort.
Ouais.
Après
on va dire
Kraftwerk.
C'est la techno européenne.
Ouais. Hein. Ouais. Mais il y a aussi donc tout ce courant de musique industrielle qui est faite et basée sur, des bruitages. Enfin, à chaque fois aussi, même plus tard et même avant d'ailleurs, il y a ce déchirement, la jeunesse qui se pose des questions, qui ne savent pas trop où y aller et qui utilisent d'ailleurs ces formes, comme tu étais en train d'expliquer tout de suite, musicales pour exprimer un peu un mal-être finalement, non ?
Alors souvent, comme souvent les musiques de la jeunesse, pas toujours, mais souvent il y a une forme de contestation derrière. Ou une réflexion, en tout cas, sur une manière de concevoir le monde, de changer le monde, etc. Alors, pour la techno, j'en parlais, hein, c'est des quartiers défavorisés qui sont laissés à l'abandon, etc. Donc, peut-être, on réenchante le lieu en créant cela. Pour Kraftwerk, pour la musique industrielle. Alors, Kraftwerk ne fait pas de musique industrielle, mais c'est vrai qu'il y a des courants qui s'en inspirent largement. Pour Kraftwerk, alors Kraftwerk, ce sont des intellectuels d'ailleurs. Eux, ils ont fait des ponts avec des gens comme Stockhausen, des artistes donc de la musique électro-acoustique, comme on l'appelle. Il y a eu des ponts, mais pour Kraftwerk, effectivement, il y a une réflexion énorme sur la machine, comme devant aider l'homme, devant promettre peut-être un monde meilleur. Ils étaient très utopistes à l'époque, ils pensaient même que le nucléaire, etc., était quelque chose de formidable. Ils en sont revenus, ils ont écrit des choses même dans les années 90, ils ont réécrit leur chanson Radioactivité en rajoutant des mots comme Hiroshima, Tchernobyl, etc., bon, qui tempèrent évidemment largement le propos. Mais au-delà de Kraftwerk, c'est vrai que le courant industriel, qui s'est inspiré de l'imagerie de Kraftwerk, de la musique de Kraftwerk, etc., celui-là, il est profondément contestataire. À la base, le but c'était de faire une non-musique, en fait, d'aller au-delà du supportable pour les oreilles des gens, de permettre en fait de faire comprendre aux gens ce qu'ils reçoivent à longueur de temps dans leur quotidien, c'est-à-dire des publicités, des agressions des médias, des journaux télévisés, des speakerines, des présentateurs, des affiches, des lumières, des panneaux lumineux, enfin tout ce qui nous agresse et nous impose en fait une ligne de conduite, un désir d'achat, etc., tout ce qu'on subit tout au long de la journée. Et bien ils se sont dit on va leur faire subir par des formes artistiques artistique. C'est Genesis Peerage, c'est Throbbing Gristle, son groupe, et puis beaucoup d'autres qui ont suivi. Au début, il faisait ça avec des arts plastiques, avec des tableaux, avec des performances, avec différentes choses. Ils se sont dit, la musique, peut-être, c'est le moyen le plus fort pour toucher le plus de gens. Et donc, ils ont fait une musique effectivement agressive. Et ils sont allés au plus loin possible dans l'agression. Et puis, d'autres groupes derrière ont suivi en lançant des lumières sur le public, en mettant des situations un petit peu difficiles d'écoute, un peu désagréables. Et ils se sont rendus compte de la résistance des gens. Mm-hmm. Et le but, effectivement, c'était une contestation. C'est leur montrer ce qu'on subit au quotidien et aller au plus loin possible. Avec
Est-ce qu'elle a en résumé, nous sommes en train de parler de ce mot que tu emploies plusieurs fois dans ton livre, qui est le situationnisme.
Effectivement, les artistes qui ont créé la musique industrielle se sont très largement référés au situationnisme. Bon, qui est un courant qui était à ce moment-là fini, hein, ça, à la fin des années 60, on va dire, l'international situationniste s'est arrêté, et Debord, etc., se sont un peu perdus dans d'autres pistes, dans d'autres voies. Il n'y a pas eu la continuité, on va dire qu'après mai 68, ça s'est arrêté, mais ça fonctionne à peu près sur la même idée, c'est-à-dire c'est intégrer la révolte au cœur de la machine que l'on critique. Donc finalement, faire de la musique industrielle dans la société de production de la musique en général, avec la soupe musicale, avec toutes ces choses-là, c'était le fer intérieur. Malheureusement, mais ça c'est comme ça, hein, la société de consommation, elle est tellement forte qu'elle arrive à tout englober, même le situationnisme. Le situationnisme aujourd'hui, c'est une étiquette commerciale, si on veut. Oui. Et donc la musique industrielle aussi, on dit ça c'est indus, pour des choses qui n'étaient pas du tout la musique industrielle.
Et si aujourd'hui on parlait de cette situation, on pourrait dire quoi ? On pourrait dire que les courants qui pourraient être... comparer un peu avec cette situation de situationnisme, mais qui serait les plus légitimes aujourd'hui, ça serait quoi ? Ça serait le fait de... Parce que même si la consommation de masse a englouti ça, mais il y a quand même des gens qui résistent, il y a des gens quand même qui sont en marge et qui ne veulent pas adhérer à la superconsommation comme on vit aujourd'hui.
Alors là, il y a deux pistes, hein, pour la contestation. Il y a deux pistes. Il y a la bulle protégée en dehors. La communauté, le squat ou quelque chose qui se détache comme ça d'un univers dominant et qui marche très bien en petit groupe,
ouais.
Où il y a effectivement rentrer dans le cœur de la machine et chercher à détourner les choses. Ça marche aussi très bien, mais ça marche qu'un temps. Ouais. Parce qu'à un moment ou à un autre, la consommation, la grosse masse productive, etc., va rattraper le phénomène et va s'y employer.
C'est qui est le plus malin, quoi.
C'est pas qu'elle est plus maligne, c'est elle a des automatismes d'assimilation et ça se passe comme ça. Mais ça marche toujours. Les deux techniques marchent toujours. Donc il faut jamais désespérer. Il faut toujours faire des bulles, qu'elles soient marginales ou qu'elles soient au cœur du gros système. Il faut toujours faire des bulles, il faut toujours continuer, puisqu'on trouvera toujours un moyen de contester.
C'est vrai que dans ton livre, effectivement, tu expliques qu'à chaque fois qu'un mouvement, qu'un courant, qu'une musique devient accessible, devient ingérable parce qu'on ne perçoit plus ça en petits groupes, mais elle s'élargit énormément, il y a comme une petite mort.
Bah, je pense que l'exemple le plus flagrant, c'est la disco.
Qui devient
une machine gigantesque, énorme, et pour tout dire imbuvable, hein,
et ça ne satisfait plus du tout au bout d'un moment.
Plus, c'était vraiment parti de quelque chose de très 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 underground et c'est devenu un phénomène massif et mondial. Et ben à ce moment-là, après la disco, on a la house. Et qui est une suite presque logique et qui arrive dans un petit ghetto, dans un petit quartier, par des gens qui ont fait de la disco, par des gens qui ont connu ça dans leur jeunesse, Frankie Knuckles, etc., et qui ont assimilé ça et qui ont donné, comme on dit, de la disco. C'est Mel Cheren, c'était un grand patron d'une boîte disco, qui dit que la house, c'est de la disco on the budget, c'est-à-dire de la disco à bas prix, la disco qui avait souvent des gros orchestres, etc. Bah là, la house, elle a redonné une impulsion en faisant ça sur des machines chez soi, dans son home studio, camouflé, etc. Ça a été une des voies, une des pistes, et c'est constamment comme ça. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est un peu ravalé et assimilé, ben on a toujours un petit mouvement de fond qui arrive quelque part dans un coin, l'underground.
Voilà, c'est quelque chose qui est très agréable dans ce livre, mes auditeurs, c'est qu'au-delà du fait de parler de musique, de parler de l'électronique, de parler de l'évolution musicale, on est aussi dans un contexte social, et on est surtout dans la compréhension du quotidien, qui est d'ailleurs, comment dirais-je, très vrai de nos jours, hein, qui n'a pas du tout été ébranlé. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans cette lecture. Eh bien, on est en train de remonter le temps, en fait, dans le livre, plutôt du côté décoration, finalement. Et puis, je voulais te poser une question, parce que, du coup, le rock était quand même le privilégié, le premier qui a touché de façon, comment dirais-je, plus démocratique, après les musiques qui étaient vraiment dans les labos, etc., les premiers instruments, les premières machines qui permettaient donc de faire eh bien, des ambiances, des choses comme ça. Je pense notamment par exemple à Pink Floyd ou à des groupes comme ça dans les années 60-70. Ça aussi, c'était une révolution, mais là, on ne parle pas encore des musiques qui vont être en boucle, de la trance et tout ça quand on arrive à la fin du livre. Donc, on peut parler un petit peu de cette période également.
De la période rock, moi, je dirais même qu'avant Pink Floyd, j'en parle aussi dans le livre, dès les années 50, le rock il a un poids fondamental dans ce que va être la musique électronique ou les musiques électroniques, parce que le rock a fondé déjà son esthétique sur des instruments donc électriques, et déjà des instruments avec une technologie particulière, mais aussi avec des technologies de studio, avec du travail de studio qui a donné un son extrêmement puissant, et avec l'intégration des bruits dans le rock, même dès le début, hein, avec les wap bap doobab lam bam bong de Little Richard, avec les intonations, les cris, les interjections de Elvis, etc. On a du bruit qui s'intègre dans la musique et qui s'intègre et qui se répand même à grosse échelle chez les teenagers américains puis européens. Donc ça, c'est assez intéressant au niveau esthétique. Et puis c'est c'est aussi une liberté, une certaine liberté. C'est l'accès des teenagers, pour la première fois après-guerre, à un univers sonore, musical qui leur est propre, bien à eux, différent des parents, en rébellion, en opposition avec les parents. Tout ça, évidemment, c'est un processus qui se lance de contestation, hein, de musique de contestation, qui se lance et qui va durer jusqu'à nos jours. Alors après, effectivement, le rock, comme tous les genres musicaux, il s'est intéressé aussi aux lutheries électroniques, il s'est intéressé aux synthétiseurs, il s'est intéressé à plein de choses. Et ça, c'est effectivement, comme tu le dis, des Pink Floyd, c'est Soft Machine, c'est plein de groupes aussi d'acid music, fin des années 60, début des années 70, qui ont aussi largement changé l'esthétique et allongé les plages de temps, allongé les concerts aussi, fait des concerts, des festivals qui durent toutes des nuits entières, etc. Et là, on a déjà en préparation, en fait, ce qu'on trouvera aussi, ou d'une autre manière, on va dire, ce qu'on trouvera dans les raves.
Alors, sur la scène rock et sur la scène techno, il y a la techno, la musique électronique en général, hein, je utilise le terme à l'européenne, mais il y a un truc qui est fondamental, c'est que c'est le partage de la scène. C'est-à-dire que les musiciens, quand ils sont sur scène avec leurs instruments, c'est vrai que le public, il est en transe en train de regarder les musiciens, si j'ose dire. C'est pas la même transe que quand on est devant un DJ qui est complètement effacé. Et que finalement, le public est vraiment tourné sur soi et sur les autres dans le partage. Et que c'est ça qui fait la différence d'une façon de vivre la fête et une autre, n'est-ce pas ?
Absolument. Alors ça, c'est quelque chose de très très différent qu'il y a eu entre l'univers, on va dire, pour schématiser, l'univers rock et l'univers techno. C'est tu disais, se tourner vers une scène, regarder un musicien, etc. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans le rock, qui a toujours été, même avec un côté quasiment sexuel, hein. C'est un sex symbole, c'est le chanteur, la chanteuse, le guitariste, enfin tous ces gens-là, c'est un idéal, séparé du public, sur une scène, mis en haut, etc., qu'on ne peut pas approcher, enfin qu'on peut à peine effleurer. Alors que quand on se tourne vers un DJ, en vrai, on se tourne jamais au début, en tout cas vers un DJ, parce que DJ est souvent caché, mis dans un coin, etc. Quand on parle de musique électronique, là, en fait, tout le monde et acteur du spectacle. le danseur, danseur qui est à côté, le groupe qui danse, l'ensemble du public. Ils sont tous acteurs du spectacle et noyés dans le son. Et le son est partout. En plus, il passe sur une façade, il est pas devant, donc sur une scène. On est pris dans le son et on est acteur de son propre spectacle, de son propre univers. Ça a été quelque chose de très très différent, effectivement, dans l'aspect rave. Et ça a été un des moyens, à mon sens, un des moyens aussi d'une contestation, pas affirmée, un peu plus camouflée, mais un moyen de contestation par rapport à des modèles dominants de la société où on doit regarder un produit, regarder quelqu'un, etc. Mm-hmm. Là, devenir acteur, tous acteurs, c'est aussi quelque chose de fondamental. Ça rejoint le situationnisme, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, tu expliques bien dans ton livre que les drogues vont avec ces genres de comportements, puisque la drogue de rock n'est pas forcément la même la drogue de la techno, qui n'est pas forcément la même que la drogue de jazz.
Alors, effectivement, il y a des drogues qui sont en commun, qui peuvent se retrouver d'un bout à l'autre, mais quand on parle souvent de l'ecstasy, là, c'est une drogue qui marche sur l'empathie, qui marche sur se sentir bien ensemble, se sentir bien, alors que c'est pas forcément le cas toujours avec le LSD, mais dans cette capacité du produit, généralement, il y a un bien-être dans la foule, avec les gens. Donc effectivement, ça peut favoriser aussi ce spectacle dans le public. Même si on n'est pas obligé de consommer, même si évidemment la loi...
On n'est pas en train de pousser les gens à la consommation.
Absolument pas,
hein,
absolument pas.
On parle de ce qui s'est dit dans le livre.
Oui, mais oui. De ce qui s'est passé aussi autour de ce produit pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, hein, ça c'est clair. Ils en parlent dans Free Party d'ailleurs.
Ouais, carrément. Alors qu'est-ce qu'on entend là, hein? On n'entend plus d'ailleurs. Ça vient de se terminer. On a parlé.
C'était du Pierre Henry. C'était la Noire à 60. C'était une pulsation comme ça, électro-acoustique, hein, réalisée comme ça dans les années en 1961. C'était un laboratoire de la musique savante. Peut-être on peut écouter le Marshall Jefferson, le Move Your Body, puisqu'on a parlé de la house et que c'est festif et que c'est la suite de la disco. C'est peut-être pas mal d'écouter ça maintenant.
C'est parti.
Rock your body, 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 rock body. Move your body. Sexy body.
Move your body. Move your body. Move your body. Move
it's gonna set
body.
You free.
Move your body. Move
it's gonna
body.
Set you free.
Move your body. Move
it's gonna
body.
Set you free.
Move your body. Move your body.
Move
your body. Move your body. Move your body.
Body.
Move your body. Move your body.
Body.
Move your body. Move your
body.
Move
your body. Sexy body. Shake your body. Sexy body. It's gonna set you free.
Rock your body. Rock
it's gonna
body.
Set you free.
Rock your body. 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 Rock
it's
your
gonna
body.
Set you free.
Rock your body. Rock
it's
your
gonna
body.
Set you free.
Rock your body.
Music's gonna
rock
set you
body.
Free.
Rock your body. Rock
it's
your
gonna
body.
Set you free.
Rock your body.
Music's gonna set you free.
Rock your body.
It's gonna set you free.
Rock your body. 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 Move 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 your body. Rock your body. Rock your body.
Set my body.
Rock your body. Rock your body.
Move.
Rock your body. Rock your body.
Move.
Rock your body.
Set you free.
Rock your body.
Move.
Rock your body.
Move.
Rock your body.
Move.
Rock your body.
It's gonna set you free.
Rock your body.
Move.
Move your body.
Rock it.
Move your body.
Move.
Move your body.
Rock it.
Move your body.
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 Rock your body.
Rock it.
Rock your
sexy body.
Rock your body.
Rock it.
Rock your body.
Move your body.
Rock your body. Move your body. Move your body.
Et oui, Move Your Body.
Voilà, c'est Marsha Jefferson. C'est un de ces jeunes, tout jeunes blacks là, de Chicago qui lançait une utopie nouvelle avec cette house music, avec trois petites machines et un home studio et trois sous, hein, surtout pas grand chose pour il y mettait toute sa paye, hein, pour fabriquer ses morceaux, cette disco on the budget, cette disco à bas budget, qui a été la house music et qui a déclenché ce mouvement d'ampleur qu'on connaît en Europe, hein, la rave, etc.
Eh bien, je voulais qu'on termine cette émission parce que, alors, une heure, c'est évidemment pas assez pour parler de ce livre, puisque chaque chapitre de ce livre pourrait donner un nouveau livre. Je comprends parfaitement bien pourquoi Guillaume, il a rebondi sur le livre de la Free Party, hein, notamment quand on arrive dans les derniers chapitres. C'était une suite très logique, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on termine un chapitre, dès le début du livre, on reste un peu sur sa fin en se disant « Ouais, j'ai appris des choses, c'est vrai, c'est pas mal, mais finalement, il y a plus à savoir, quoi. » Tu vas nous sortir des tomes, là, non, Guillaume ?
Ouais, j'ai un prochain livre qui est en préparation, mais c'est sur les musiques savantes, effectivement, et c'est sur les musiques, justement, un petit peu des élites, un petit peu des plus confinées, plus particulières, qui font partie de cet ouvrage, donc de musiques électroniques, et c'est prévu, hein, de faire quelque chose là-dessus.
Ah, je suppose, ça va être passionnant également. D'ailleurs, mes éditeurs, vous allez me dire, mais c'est quoi cette fille ? C'est pas possible, elle veut absolument vendre les livres de Guillaume. Non, mais allez-y, achetez-le et lisez-le. Franchement, non, ce n'est pas la super consommation. Je ne vous pousse pas forcément à consommer, mais franchement, j'ai pris du plaisir à lire et j'ai appris plein de choses. Et je suis sûre que même pour les gens qui s'y connaissent énormément déjà, il y a des trucs à découvrir. Hein. Franchement, c'est pas mal.
Et c'est bien quand un livre aussi permet d'avoir envie de s'ouvrir à d'autres choses. Quoi. C'est,
totalement,
je pense que c'est pas mal aussi.
Et
hein,
de se situer pas... aussi, parce qu'effectivement, bon, bah, après, on a l'âge qu'on a, mais à un moment donné, on a des souvenirs, on a des choses, on n'a rien compris, on a juste vécu. Et puis finalement, ce livre, il y a tellement d'histoires qu'on comprend et on comprend aussi d'où ça vient, ce qu'on a découvert à un moment donné.
C'est vrai,
et qu'on ne s'est pas posé des questions.
Et dans un autre sens, moi, je donne souvent des cours à des personnes âgées dans une université du temps libre un peu partout en Bretagne. Et ils me demandent souvent, ils me disent « Oui, mais les musiques électroniques, un livre comme ça, moi, ça ne va pas me toucher. Moi, je n'écoute pas les choses, tout ça. » Et j'ai dit « Mais vous allez forcément trouver quelque chose que vous avez écouté un jour ou l'autre dans votre vie. » Parce que ça parle des Beatles, parce que ça parle des Stones, ça parle de plein de choses.
Ça parle de Beethoven.
Absolument.
Deux mots sur Beethoven.
À Beethoven, je lui baise les pieds tous les matins. Hein. Bien sûr, j'ai sa sculpture dans ma chambre. Non, c'est presque vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais Beethoven, c'est le premier compositeur, à mon sens, qui a orienté la musique vers le son, vers la matière sonore. Mm-hmm. C'est le premier à avoir composé avec des blocs sonores.
Qui s'est posé la question sur le timbre.
Absolument.
Ouais.
Avec des blocs sonores, avec des blocs de temps. Même qui a composé avec du silence, qui a donné un poids si considérable au silence et qui est sorti en fait de conventions d'écriture, de la hauteur, de toutes ces choses-là dans son écriture. Donc c'est quelqu'un qui a ouvert vraiment le langage musical au tout début du 19e sur des choses qu'on a encore aujourd'hui dans des tas de musiques très 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 différentes.
Oui, et puis il y a des moments aussi assez anecdotiques parce qu'on comprend et on voit aussi à quel point la musique elle peut être faite et vécue aussi dans la douleur, puisqu'il y a des musiciens qui croient tellement à ce qu'ils font et qui en fait devant le public, et le public il est là, il rejette.
Ça leur plaira plus tard. Ça, c'est la phrase de Beethoven, c'est une phrase qui a été extrêmement importante et que, effectivement, d'autres compositeurs ont pu dire à d'autres moments dans les années 50 ou avant. Ça leur plaira dans les années 20, Schoenberg ou d'autres.
Ce qui faisait un peu pédant, hein, finalement, mais bon, en même temps,
ça
c'était pas
ça,
faux. Hein.
C'est pas faux parce que Beethoven, aujourd'hui, il est totalement admis de tous les côtés. On en entend à toutes les sauces. Mais moi, je pense que Beethoven, s'il avait eu l'électronique dans les mains, s'il avait eu tout ce dont on dispose aujourd'hui, il se serait bien amusé et il nous aurait fait plaisir. Ça, j'en suis persuadé.
Bon, bah voilà. Donc, je voudrais quand même terminer, Guillaume, sur une dernière réflexion de ta part sur la musique aujourd'hui. Là, les jeunes, on parlait tout à l'heure autour d'un café qu'il y a des sacrées différences parce qu'à chaque fois, il y a un rattachement à quelque chose. Je te parlais, il y a un passage dans ton livre, tu expliques très bien qu'il y a une explosion, que les gens, ils ont un ras-le-bol de la répression, mais c'est un phénomène quand même assez massif et qu'aujourd'hui, les gens, ils ont un ras-le-bol d'une certaine répression également. Mais c'est beaucoup plus difficile de créer des courants pour se mettre éventuellement contre ces choses-là, pour faire des choses qui vont à l'inverse de ces choses-là, parce qu'étrangement, on est tous regroupés, notamment via Internet, mais on n'est pas du tout regroupés du tout.
Voilà, on est peut-être un peu trop nombreux sur la toile, et puis en même temps, c'est tellement vaste, tellement large, que c'est difficile, plus difficile de regrouper les gens. En même temps, il y a des moments hein, comme ça dans l'histoire où les gens ont tendance à lancer quelque chose, lancer un mouvement et avoir une grande masse comme ça, puis des moments un petit peu de calme. Je pense qu'il y a là actuellement, il y a plutôt un calme et il y a un tel dégoût de la politique, on va dire en général, un tel rejet de tout ce qui touche à la politique que le mot même est un gros mot chez beaucoup de jeunes, et donc ils ont du mal à enfin, en tout cas, ils sont pas du tout dans ces logiques de faire un mouvement de masse, d'un mouvement de contestation générale. Et c'est des petites bulles. Et il y en a plein des petites bulles, notamment sur Internet, des petites bulles de résistance, mais plus confinées, plus petites. Et je pense que c'est aussi porteur d'espoir, même s'il n'y a pas un grand mouvement d'envergure, qu'on le voit pas en tout cas actuellement, c'est porteur d'espoir ces petites bulles, parce que les petites bulles, des tas de petites bulles comme ça, c'est aussi pas mal.
Vous avez entendu, hein, je suis devant un vrai optimiste, c'est génial, on commence bien l'année ici à Canal B, je suis contente et je vais te obliger de dire au revoir à mon invité Guillaume Kosmicki, qui a écrit Musique électronique des avant-gardes Dance Floor, pour passer rapidement à l'agenda, sinon on va pas le faire. Merci beaucoup Guillaume.
Merci.
Être et transmettre est l'exposition proposée par l'École supérieure d'architecture pour rendre hommage à Michel Caguin, architecte et professeur décédé en 2009. Son travail porté sur une architecture lumineuse et son parcours notamment à l'étranger a influencé un courant du mouvement moderne. Aux horaires d'ouverture de l'École d'archi, du 6 janvier, dès demain, au 4 février, et une conférence inaugurale, donc demain, est prévue à 18h. La compagnie Tro Eol présente Le Meunier Ourlon, pièce pour trois acteurs et plusieurs marionnettes. C'est un spectacle pour tout public à partir de 10 ans. En ce moment, des séances programmées jusqu'à 20h, à partir de 20h jusqu'à vendredi, et le samedi, c'est à 18h. Les tarifs, c'est 15 et 8 euros et ça se passe au TNB. L'exposition Partition de l'artiste Julie Morel sera inaugurée demain soir à 18h30 et elle sera visible du 7 janvier au 27 février. Des installations sonores, mais pas uniquement. Julie a choisi le thème de la séparation amoureuse pour mettre en avant 12 chansons du 19e siècle, à voir impérativement au bon accueil. Et oui, c'était Wake Up Call ce matin avec Guillaume Kosmicki. Ouh, c'était super, j'adore. Eh bien, je vous dis à demain, je serai là encore une fois à l'antenne chez Canal B avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye!